Radio Okapi.
Le journal Belinda Bousouma.
Okapi.
Lueur d'espoir pour les Congolais de Kinshasa et du Bas-Congo. Bientôt du courant électrique en provenance de Zongo 2. Le chef de l'État vient de lancer les travaux de construction de ce barrage. Coût total, 365 millions de dollars américains. Et puis ce bilan accablant des personnes tuées par les FDLR dans Calais et au Sud Kivu. Plus de 50 morts depuis début mai. Statistiques données par OCHA aujourd'hui lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Justice, troisième jour de procès en appel contre le général Munene et consort Ambanzangungu dans le Bas-Congo. Ils sont 76 prévenus, poursuivis notamment pour tentative d'organisation d'un mouvement insurrectionnel. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a donné ce mercredi le coup d'envoi des travaux de construction du barrage Zongo 2 dans le Bas-Congo. Ce barrage alimentera la ville de Kinshasa et une partie de la province du Bas-Congo en courant électrique. Durée des travaux, 36 mois, soit à peu près 3 ans. Michel Kifindangoy est notre envoyé spécial à Zongo.
Après le lancement des travaux de barrage de Katende et de Kakobola dans les provinces de Bandundu et de Kasaï occidental, vient le tour de Zongo 2 dans le Bas-Congo. La réalisation de ce projet s'évalue à 365 millions de dollars, mis en œuvre par l'entreprise chinoise Sinohydro. Zongo 2 aura trois groupes de 60 MW chacun. Ces barrages de 150 MW, soit plus puissants que Zongo 1, alimentera la ville province de Kinshasa et la province du Bas-Congo. Pour le représentant du groupe Sinohydro, les travaux vont durer 3 ans et consistent en la fourniture, le transport et démontage d'équipements électromécaniques et électriques pour le central Zongo 2. Sont également prévus les travaux de construction de tous les ouvrages de génie civil, l'aménagement de la route d'accès au site Zongo 2 et la construction de la ligne de transport Zongo-Kinsuka. De Zongo, Michel Kifindangoy, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, brève plénière aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un seul point à l'ordre du jour, la question de la constitution des bureaux des commissions permanentes. Les députés n'arrivent toujours pas à accorder leur violon malgré le délai leur accordé par le bureau de la Chambre basse du Parlement. À la base de ce blocage, le nombre de postes à pourvoir à chaque composante et les commissions à accorder à l'opposition. La majorité réclame 25 sièges sur les 35 disponibles, tandis que l'opposition voudrait plutôt en avoir 12 au lieu de 10. Par ailleurs, l'opposition réclame la présidence de la commission politique, administrative et judiciaire ou économique, financière et contrôle parlementaire, mais la majorité ne l'entend pas de cette oreille. Un autre délai a encore été accordé aux députés jusque ce vendredi pour arriver à dégager un consensus. Direction le Sud Kivu. Une cinquantaine de personnes ont été tuées par les FDLR dans le territoire de Calais depuis le début de ce mois de mai. Bilan donné aujourd'hui par le bureau de OCHA qui s'inquiète. C'est au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Selon le chargé des affaires humanitaires associé de OCHA, ces rebelles hutu-rwandais soupçonnent les habitants de Calais de collaborer avec le groupe armé Raia Mutomboki. Mais Dar Lobota signale même que deux ONG internationales ont suspendu leurs activités suite à l'insécurité généralisée observée sur place. Il l'a dit à François Kadima.
Ces personnes sont notamment des civils, des villageois qui sont essentiellement tués quand ils vont dans leurs champs. Et ils sont tués par des présumés éléments des forces démocratiques de libération du Rwanda, communément appelé FDLR. Dans le territoire de Calais, les ONG qui travaillent font face à un problème, à une situation d'insécurité généralisée. Donc, pour mettre à l'abri certains de leurs staffs, des ONG internationales ont été obligées de fermer. C'est une fermeture provisoire, temporaire, et ils pourront les réouvrir après, quand la situation sécuritaire permettra. Comme vous le savez, les humanitaires vont vers la population civile. Il y a beaucoup de gens qui sont déplacés dans le sud Kivu, également dans le nord Kivu, qui ne peuvent être assistés simplement parce que les acteurs humanitaires ne peuvent y accéder.
Par ailleurs, en Ituri, les hommes de Morga occupent 8 villages du territoire de Mambasa au sud de Bunia, en province orientale. Des sources locales et la société civile précisent qu'il s'agit des villages Molende, Bulambemba et Tokobika. Les mêmes sources signalent que les hommes de Morga ont violé 30 femmes lundi à Molende, ce qui porte à 70 le nombre des femmes violées par ces hommes depuis une semaine dans ces 3 villages occupés. On compte aussi 3 personnes blessées à Molende et 500 grammes d'or ravis. vie. D'autres détails avec Jean-Claude Kabala de Radio Amkeni à Mombasa.
30 femmes sont violées le lundi dernier par les hommes de Morga à Molende après leur entrée dans le village. Devant la résistance des jeunes du village, les miliciens logent les balles dans les jambes des trois d'entre eux. Ils ravissent 500 grammes d'or à la population, soit l'équivalent de 25 000 $ américains. Cette information est confirmée par le rescapé et la société civile. Ces sources signalent les viols des 40 femmes à Itembo par la troupe de Morga il y a 8 jours à leur entrée dans le village. Selon ces sources, 26 personnes sont tuées dans les affrontements avec les FARDC. L'administration du territoire de Mombasa fait état de plus de 5 000 déplacés du village d'Itembo, Molende, Tokobika, Boulambemba et autres. Ces déplacés vivent actuellement dans des familles d'accueil à Mombasa Centre, Badengaïdo, Nyanya, Avakoubi, tous situés au sud de Bounian. Le chef milicier Morga promet de s'attaquer à la station de Pounou où se situe la réserve d'Okapi. Jean-Claude Kabala Nassau, Radio Mkili Mombasa pour Radio Okapi.
Parlons justice à présent. La Cour militaire du Bas-Congo, siégeant dans l'affaire le général Faustin Munene et consorts, poursuit ses audiences publiques au cercle de l'Onatra de Mbanzangungu. C'est à 215 km à l'est de Matadi. La journée d'aujourd'hui a été consacrée aux exposés des avocats de la défense. Dani Kindanzita.
Ils sont au total 76 prévenus comparaissant à la cour militaire du Bas-Congo siégeant au degré d'appel en forêt Mbanzangungu. Ils sont poursuivis notamment pour tentative d'organisation d'un mouvement insurrectionnel et violation des consignes militaires. L'audience publique a été ouverte lundi dernier, mettant en cause l'auditorat militaire, le ministère public et la partie civile contre l'ex-général Faustin Munene, ancien chef d'état-major de la force aérienne de l'armée congolaise et consort parmi lequel le journaliste Patrick Palat de la chaîne de télévision privée Canal Congo Télévision, CCTV du Bas-Congo. Parmi eux, un prévenu est déjà décédé et un autre est hospitalisé au centre de santé du camp militaire Kokolo à Kinshasa, a-t-on appris de plusieurs sources. Pour rappel, ce prévenu était condamné en mars 2011 par le tribunal militaire de garnison de Matadi à des peines allant de 5 à 20 ans de prison. Matadi, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
Cap vers Lissala dans la province de l'Équateur, une délégation mixte FARDC-MONUSCO, autorité du district, a visité lundi la prison militaire d'Angenga située à 25 km à l'est de Lissala. Objectif, se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de cette maison carcérale par le gouvernement central. Angenga est la deuxième prison militaire de la RDC après celle de Ndolo, ici à Kinshasa. Le commandant de la 3e région militaire qui conduisait cette mission s'est dit satisfait de l'évolution des travaux, mais il pense aussi à la nécessité de renforcer la main-d'œuvre. Ghislaine Ntobo nous en dit plus.
Créée en 1952 par le Belge, la prison militaire d'Angenga a une superficie de 380 mètres carrés et une capacité d'accueil de plus de 1000 détenus. Cette prison est située à l'est de Lissala, au groupement Mundunga, secteur de Ngombedoko. D'abord une prison civile de 1956 en 1960, ensuite une prison militaire. Tous les officiers militaires criminels et même les détenus politiques y étaient gardés. Ils provenaient de partout à travers la République. Cependant, le dernier pensionnaire a quitté cette prison en 1997 à l'entrée de l'AFDEL et c'est le début de la destruction de cette prison militaire qui aujourd'hui présente le visage d'un enfant pauvre. Mais le gouvernement central à travers l'inspection pénitentiaire militaire a pris l'initiative de la réhabiliter. Depuis février dernier, des génies militaires et le personnel civil du ministère de la Défense sont à pied d'œuvre. Déjà, les 46 cellules de cette prison sont réfectionnées, y compris l'infirmerie ainsi que deux blocs du dortoir dont les travaux pourront se terminer dans 2 mois. Le commandant 3e région militaire se félicite des travaux réalisés jusque-là, mais il estime qu'il y a nécessité de renforcer la main-d'œuvre pour accélérer les travaux. Lissala, Ghislaine Ntobo, Radio Okapi.
Et puis, Radio Okapi est en deuil. Elle a perdu plutôt notre confrère Sadala Chabani. Il est décédé hier mardi à 17h à l'hôpital Marie Biamba Mutombo, ici à Kinshasa, suite à une longue maladie. Je vous propose d'écouter cette voix qui, hélas, vous n'entendrez plus.
Conduite par Paul Sivanos, directeur du cabinet du président de la République d'Angola, la délégation des officiers langolais était composée aussi de Mr. Jojo, inspecteur provincial de la police en province de Lunda Nord, le général Antoine Djordje, commandant de la région militaire dans la même province, et M. Gilles Famos, représentant du ministère de l'Intérieur. Ces officiers langolais sont venus rencontrer les autorités congolaises au poste frontalier de Kamako dans le but de présenter le démenti sur les accusations faisant état de la mort de 40 Congolais lors de leur expulsion à la localité angolaise de Kalunda en décembre dernier. De Kananga, Sadala Chabani, Radio Okapi.
Recruté en 2002 à Kindu dans la province du Maniema, son premier poste d'attache y sera déployé successivement à Bunia puis à Kananga. Son dernier poste reporter du terrain, Sadala Chabani, il faut le dire, était l'un des journalistes courageux sur qui Radio Okapi pouvait compter. Que son âme repose en paix et c'est par cette triste note que nous bouclons ce journal. Merci de nous rester fidèles.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.